13h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma camarade Ombline.
Bonjour Olivier, comment bonjour à tous, ça va bien, merci.
Pendant cette heure, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles, car Europe 1 s'intéresse à votre vécu. Vieillir, on peut le voir comme l'arrivée des cheveux blancs, des rides, d'une plus grande fatigue, mais on peut aussi le voir d'un autre regard. En vieillissant, on se libère des contraintes. On peut prendre le temps. Perla Servan-Schreiber, qui sera avec nous tout à l'heure, dit « Je ne vois aucune différence entre vieillir et vivre. » En fait, pour bien vieillir, il faut le décider. Les années qui passent, ce n'est pas une fatalité. Vieillir n'empêche pas de rester actif. Ça peut être aussi le moment de nouveaux projets. Comment aborder le fait de vieillir sereinement? Comment éviter la solitude? Doit-on rester jeune à tout prix? Comment bien vieillir? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Et comme chaque jour, vous le savez, vous composez le 39 21 50 centimes la minute. Sur Facebook, vous réagissez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 et Twitter, hashtag Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Monique sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi. Bonjour Monique.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors, j'ai 55 ans et je vous appelle de Narbonne.
D'accord. Alors Monique, vous semblez avoir un adage, c'est bien vieillir, c'est s'accepter. Ce qui vous a aidé, c'est d'arrêter de vous teindre les cheveux il y a 2 ans et d'assumer vos cheveux blancs. Pourquoi ce choix et pourquoi à ce moment-là en particulier?
Alors, pourquoi ce choix? Parce que déjà, pour des raisons pratiques, parce qu'effectivement, les cheveux, ça repousse très vite. Et on a souvent des racines blanches, etc. Et quand on va chez le coiffeur, on a des remarques vraiment pas très sympathiques qui nous disent « Quoi? Déjà, vous avez des cheveux blancs, mais vous avez vu la quantité de cheveux blancs que vous avez ?» Parce que moi, en fait, ça a commencé vers 35 ans d'avoir des cheveux blancs. Bon, pour moi, quelque part, c'était pas grave. Mais j'avais une réaction en face de moi qui était quand même assez accusatrice à chaque fois.
Oui.
Et il y a à peu près 2 ans, comme ça, je me suis dit « Ah, j'en ai marre de tout ça, c'est vraiment de l'esclavage. » Et je me reconnaissais plus, en fait, dans le fait de me teindre les cheveux.
Mmh.
Et bon, j'habite dans le sud, mais bon, je vais souvent sur Paris et tout ça. Et en fait, je voyais énormément de femmes avec les cheveux gris, les cheveux blancs, bah, de tout âge. Alors évidemment, je ne parle pas des jeunes et au niveau de la mode, mais des personnes de mon âge et plus. Et je les sentais vraiment très à l'aise dans leur façon d'être. Voilà, et je voyais des personnes en face de moi qui n'avaient pas ce look de vieille. Et je me suis dit, mais c'est ça, moi je me sens comme ça et je veux être ça. Mmh. Et j'ai passé donc ce cap, voilà.
C'est fort d'avoir ce look de vieille, alors que vous faites référence à ces femmes que vous croisiez à Paris.
Ouais.
Ce look de cheveux blancs, en tout cas moi qui suis un homme qui est la cinquantaine, jamais je ne me suis dit, en regardant une femme qui avait les cheveux blancs, elle a un look de vieille. Donc ça veut dire que vous avez décidé d'être sans artifice et d'assumer finalement ce bel âge qui est aussi 55 ans et qui, je le rappelle, est très jeune quand même encore.
Voilà, je suis d'accord. Mais en fait, qui nous montre toujours du doigt ce côté vieux et ce côté t'as les cheveux blancs, c'est les femmes entre elles, en fait.
Oui,
parce qu'effectivement, je n'ai jamais eu de remarque d'un homme qui me disait « Ah, oh, c'est quoi ces cheveux blancs ?» Jamais. C'est toujours une femme qui va me montrer du doigt en disant « Voilà, t'as les cheveux blancs. » Et en fait, il y a 2 ans, quand j'ai parlé autour de moi que je voulais arrêter de me teindre les cheveux, j'ai une de mes amies qui m'a dit « Ah, mais ça y est, tu vas passer de l'autre côté. » Et ça m'a vraiment choquée parce que je me suis dit « Mais c'est quoi? Comment on peut s'arrêter à des choses aussi superficielles et penser que le fait de ne plus se teindre les cheveux, on va passer de l'autre côté, du côté des vieux.
Ouais.
Ça veut dire quoi aujourd'hui? Enfin, c'était vraiment c'était très fort, je trouve, comme remarque.
C'était quelque chose qui vous faisait peur avant, ça, cette fameuse barrière, passer de l'autre côté?
Alors, peur, oui, on peut dire ça, effectivement, parce qu'évidemment, on est dans une société de jeunisme. On doit absolument être jeune, être svelte, musclé, ne pas avoir de rides, ne pas avoir de cheveux blancs. Et voilà, il faut avoir quelque part, je dirais, une espèce de sorte de courage pour assumer qui on veut être vraiment.
Oui.
et correspondre à nos envies et à ce qu'on veut être par rapport à notre âge. Alors, d'autre part, c'est vrai que plus en vieillissant, bon, vieillissant, j'ai que 55 ans, mais plus les années passent et plus, en fait, on se sent mieux dans notre peau, dans ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas. Voilà. Mais la société, surtout du côté des femmes, nous renvoie ce jeunisme qui nous dit « Ah non, non, tu peux pas avoir les cheveux blancs parce que les cheveux blancs, c'est aussi être vieille. Et ça veut dire, vieille, plus tard, maladie, égale mort, quoi. Donc, ça va loin, en fait. Mm-hmm. Mais non, on n'a pas, voilà. Il faut s'assumer, en fait, tel qu'on a envie d'être. Je pense que c'est très, très important.
Et justement, vous assumant avec vos cheveux blancs, est-ce que vous vous sentez différente aujourd'hui? Et pas mieux, puisque j'entends que vous vous sentez mieux, mais différente aujourd'hui, puisque vous êtes toujours à Narbonne, et que je suppose qu'il y a toujours des femmes qui considèrent qu'avoir les cheveux blancs, c'est passer de l'autre côté. Vous vous sentez différente?
Moi, je me sens... alors, le mot est fort, mais je me sens libérée. Carrément. Depuis... Oui, vraiment, hein, c'est un sentiment que j'ai eu de libération, de ne plus être obligée de paraître ce que je n'avais plus envie d'être, mm-hmm. en me teignant les cheveux.
Vous trouvez que...
c'est fort, mais c'est vraiment ça. Quoi.
Mm-hmm. Mais c'est très bien, c'est une idée très pure et très claire. Et vous trouvez qu'en France, vieillir est un sujet tabou. Qu'entendez-vous par là?
Vous savez, le vieillissement, c'est comme je l'ai évoqué un petit peu là, c'est aller vers... La décrépitude, voilà, mmh. je suis arrivée, c'est aller vers la maladie, c'est aller vers la mort au bout du compte. Et souvent, les personnes âgées ou voilà, qui commencent à être un peu vieilles, on est rejeté de la société. Voilà. Mmh. On est un peu hors circuit. Alors qu'en fait, une personne 50, 60, 70 ans et même plus, voilà, moi je considère que ce sont des personnes qui sont très riches d'expérience, qui ont une maturité formidable, qui ont souvent des vécus extraordinaires. Et je trouve que c'est plus une richesse. Je pense qu'il est très important d'avoir un regard différent sur les femmes qui sont un petit peu plus âgées, voilà, que ce jeunisme qu'on veut bien nous faire voir et entendre d'obliger à nous accepter.
Parfois nous imposer,
oui. Oui, nous imposer, voilà, c'est ça. Voilà, mm-hmm. Tout à fait ça. Oh,
Monique.
C'est vraiment un décalage énorme, oui.
Vous restez en ligne avec nous. Dans quelques instants, nous allons continuer à parler de vous et justement des injonctions faites aux femmes du fait de vieillir.
Europe 1. Nous vieillirons tous. Alors comment vivre cette étape au mieux? Oui, ça c'est inéluctable. Vous nous racontez votre histoire au 39-21 et je vous rappelle que vous pouvez nous écrire sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Entre 15h et 16h, vous écoutez Olivier Delacroix sur Europe 1 et on vous demande comment bien vieillir, quelles sont les clés d'une longévité réussie et heureuse. Vous nous racontez votre histoire au 39-21.
Et nous sommes toujours en ligne avec Monique qui nous expliquait avoir pris la décision de ne plus teindre ses cheveux et d'assumer la beauté de cette chevelure blanche qui est la sienne aujourd'hui. Monique, vous êtes maquilleuse professionnelle. Hein. Vous dites que les femmes que vous côtoyez sont très fragiles par rapport à leur apparence physique. Elles ont du mal à s'accepter à tous les âges.
Alors, oui, effectivement. Alors ça peut paraître un peu fou parce que effectivement, j'ai effectivement maquillé des personnes de tout âge et de toute couleur de peau, mais ça, c'est un autre sujet.
Oui.
Une femme qui est jeune, qu'on considère vraiment très très belle et très jolie, il suffit qu'on lui dise par exemple « Ah là, mais attention, t'as peut-être un œil qui est un petit peu plus ouvert que l'autre. » Il y a des personnes qui ne supportent pas la critique. Voilà. Mais ça c'est en rapport par rapport à la confiance qu'on a en soi. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un visage ordinaire, si je puis dire, qui a la confiance en elle et qu'elle est bien dans sa peau, on pourra lui dire et lui faire peut-être n'importe quelle remarque, il n'y aura pas de problème. Voilà.
Oui.
Je pense que le fond du problème, c'est une confiance en soi et s'accepter comme on est.
Et justement, ces femmes qui manquent de confiance en elles, que vous ressentez et même qui s'en ouvrent à vous, que leur répondez-vous?
Alors, je leur réponds que toute femme est unique, que chaque visage a une personnalité et une richesse, parce que pour éviter ce clonage que la société également aime bien nous faire, adopter, avoir toutes les mêmes lèvres, le même nez, etc., etc. Et ça, c'est bien dommage, parce qu'en fait, chaque personne est vraiment unique. Mais souvent, comme les personnes n'ont pas confiance en elles ont du mal à justifier justement leur différence et à affirmer cette différence. Mmh. C'est vraiment dommage.
Mmh. Alors, les femmes subissent une grande pression de la société, hein, qui, dès qu'elle peut, cette société leur envoie l'image qu'on est belle quand on est jeune. Je pense à Yann Moix, dernièrement, qui a eu la classe hein, de parler du corps des femmes de 50 ans qui le dégoûtait, en tout cas, ne l'attirait plus du tout. Est-ce qu'on est beaucoup moins intéressante quand on vieillit? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée?
Non, je ne suis pas d'accord. Parce que justement, comme je l'évoquais, je pense qu'une femme... Bon, je prends ma référence forcément, de ces femmes qui ont autour de 50, 60 ans, ce sont des femmes vraiment qui sont très riches, voilà, qui ont une vie vraiment bien remplie, qui savent ce qu'elles veulent, qui sont bien dans leur peau. Et au contraire, je trouve que ce sont des personnes très intéressantes. Je vois autour de moi, hein, il y a des femmes vraiment formidables. Alors, on parle des femmes, hein, bon, il y a les hommes aussi, hein, je les oublie pas, mais bon, voilà, il y a des femmes qui sont vraiment... vraiment très intéressant.
Bah écoutez, en tout cas, moi je connais énormément de femmes de toutes les générations et les femmes de 55 ans, 60 ans, 65 ans, 70 ans, 75 ans que je connais ont toutes des vies bien remplies et à tout niveau. C'est pour ça que parfois.
Oui.
Pardon, excusez-moi.
Il y a plein de choses à transmettre aussi, à partager.
Ouais, bien sûr. Parfois, en vieillissant, certaines femmes ne prennent plus autant soin d'elles, comme si elles considéraient que ce n'était plus nécessaire. Vous en connaissez certaines qui sont comme ça autour de vous ?
Ah oui, complètement. C'est-à-dire qu'elles partent... Alors, autour de moi, j'ai des exemples de femmes... Alors, c'est plutôt vers 70 ans, je veux dire. Bah, voilà, mm-hmm. J'en ai plusieurs autour de moi qui se disent « Ah bah voilà, maintenant j'ai 70 ans, je suis hors-circuit ». Je me maquille plus, je mets plus de petits, un petit rouge à lèvres ou je mets plus un joli petit foulard pour avoir bonne mine. Je baisse les armes, c'est terminé. Mmh. Alors, pourquoi ça ? C'est la psychologie, après, c'est autre chose.
Ouais.
Mais c'est dommage parce que, effectivement, alors, ce qui les désarme souvent, alors, c'est plus les cheveux blancs, c'est les rides. C'est les rides, c'est le visage qui s'affaisse. Mmh. Et là, elles se disent, oh, bah, maintenant, hop, terminé, moi, je. Quelque part, elles s'effacent en fait un petit peu par rapport à la société. Alors c'est pareil, hein, elles n'ont pas de remarques de la part des hommes, mais c'est plutôt de la part des femmes.
Ouais.
Voilà, elles se rencontrent en disant, bah, disons, aujourd'hui, t'as une sale tête, quoi.
Mais alors,
ah bah oui, mais sauf qu'on dit pas ça, quoi.
Mais alors ces femmes-là qui finissent par s'oublier un peu, vous pensez qu'elles acceptent, elles capitulent devant les signes du vieillissement ?
Oui, elles capitulent. Oui, oui, ah, oui, oui, c'est vraiment le mot. Elles capitulent, voilà. Mm-hmm. Elles sont passées, ben là, du coup, de l'autre côté, comme on dit, quoi.
Ouais.
Enfin, comme elles disent. Et voilà, maintenant, elles deviennent vieilles. Mm-hmm. Mais quel dommage.
Bah,
voilà.
Écoutez...
Et en plus souvent, pardon, ouais. En plus souvent, elles ont des kilos en trop, donc ça vient s'ajouter en plus. Et là, voilà, c'est terminé. Il n'y a plus personne.
Bah, écoutez, en tout cas, Monique, juste une petite parole en passant, c'est que vous pouvez continuer à vous qui êtes maquilleuse et qui êtes dans l'apparence, vous pouvez continuer à distiller la philosophie qui est la vôtre aujourd'hui et puis le fait de bien vieillir, c'est de s'accepter hein, finalement. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de partager votre vécu cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous serons avec Perla Servan-Scherber. Elle est l'auteure du livre Les promesses de l'âge. À 75 ans, ma nouvelle liberté.
Europe 1.
Ce que nous dit Monique, qu'on vient d'entendre, est-ce que ça vous parle ? Vous nous racontez votre histoire au 39-21. Comment se sentir bien malgré les années qui passent ? Est-ce que vous vous acceptez comme vous êtes, à l'âge que vous avez ? Vous pouvez aussi nous écrire via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Personne n'est immortel, mais vous disposez des bons tuyaux pour bien vieillir. Vous êtes active, vous luttez contre la solitude, vous témoignez au 39-21 et vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Perla Servan-Scherber, auteur du livre Les promesses de l'âge, à 75 ans, ma nouvelle liberté, disponible aux éditions Flammarion. Bonjour madame, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour et merci de vous penser à moi.
Je vous en prie. Pourquoi avoir ressenti le besoin d'écrire un ouvrage sur le fait de vieillir ?
Écoutez, j'ai écouté avec beaucoup d'attention Monique, je crois. Hein. C'est
oui,
Monique qui
oui,
vient
oui,
de
exactement.
Parler. Et je n'ai pas une virgule à changer à ce qu'elle a dit, sauf que j'ai 20 ans de plus qu'elle.
Oui.
C'est-à-dire que j'ai 75 ans.
Mmh.
Et je suis assez, sidérée, non pas par ce qu'elle a dit, mais par ce qui est effectivement communément accepté aujourd'hui dans la société, c'est-à-dire qu'à 50 ans, on est déjà vieille.
Oui. Ça paraît totalement incroyable.
C'est
dû à quoi, ça, pour vous ? Parce que mon sentiment d'homme, encore une fois, mon ressenti, c'est que c'est nouveau, ça. C'est apparu très récemment qu'à 50 ans, les femmes se trouvaient vieilles. C'est la société aujourd'hui qui nous renvoie ça ?
Alors, je dirais personnellement qu'il y a deux choses. C'est que... À la génération qui me précède, celle de ma mère ou celle de ma grand-mère, 50 ans, c'était vieux.
D'accord.
Parce que la moyenne d'âge était à peu près de 62-63 ans.
D'accord, oui.
La moyenne d'âge, c'est-à-dire l'espérance de vie à la naissance. Hein, c'est comme ça que l'INSEE définit exactement la moyenne d'âge. D'accord ?
D'accord.
Et nous avons gagné 3 mois par an depuis cette époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 16 ans de plus que la génération de ma grand-mère.
Ce qui nous porte à 80 ans.
Ce qui nous porte exactement à peu près 80 ans. On est aujourd'hui, on doit être à peu près à 78 ans
oui.
d'espérance de vie pour les femmes, hein, 78,5, d'accord ? Et moins pour les hommes, hein, incontestablement. Il y a ce que nous vivons, et vous l'avez très justement dit et précisé, nous vivons une vraie révolution, celle de la longévité.
Mmh.
C'est-à-dire que nous vivons beaucoup plus longtemps, en nettement meilleure forme que ne le faisaient, encore une fois, ne serait-ce que nos grands-parents.
Mmh.
Hein, ça ne va pas très loin. Or, nous savons que les évolutions dans la société sont plus longues que ce type de révolution accélérée. Regardez, par exemple, la révolution du numérique, l'adaptation est infiniment plus longue selon les couches de la société ou les tranches d'âge.
Complètement, oui.
C'est une vraie rupture, c'est une vraie révolution. Et cette révolution-là, elle est également une révolution silencieuse et il en est très peu parlé. Je vous félicite et vous remercie à une belle heure d'écoute sur une belle station de dire, de parler de ce problème. Pourquoi est-ce que c'est important de le faire ? C'est pour que les femmes se libèrent de ce diktat du jeunisme et de la jeunesse et qu'elles s'adaptent simplement à la réalité. Car l'imaginaire de la vieillesse, c'est-à-dire la vieille femme dès l'âge de 50 ans, qui ne s'habille plus de la même façon, qui de toute façon ne travaillait pas, donc elle risquait pas de continuer à travailler ou pas, vous voyez, qui n'a plus du tout le même rythme de vie, cette femme-là n'existe plus. D'accord ? Et donc, pour adapter notre imaginaire qui est encore marqué par les vieux que nous avons connus, nous, vous voyez, nous voyons curieusement, mais ça n'est pas la seule fois dans le comportement humain, nous voyons davantage et nous sommes impressionnés davantage par ce que nous avons vu que par ce que nous voyons.
Mmh. À quelques virgules près dans votre explication que, ayant fait dernièrement un documentaire sur les femmes qui se battent pour obtenir du travail, toutes évoquaient la difficulté de trouver du travail à partir de l'âge de 50 ans. Comment est-ce que vous analysez ça ?
Exactement, Olivier, c'est le deuxième point que je voulais aborder. Le premier, c'est que la réalité de l'âge n'est plus du tout la même, cette révolution de la longévité. Et la deuxième, c'est que comme nous vivons dans un monde où quand vous vous présentez à quelqu'un, certes, vous donnez votre nom, mais immédiatement après, on vous demande ce que vous faites, hein, c'est ça qui vous définit aujourd'hui et depuis un moment dans la société, c'est le monde du travail.
Exactement.
Qui dans le monde du travail, à partir de 45 ans, c'est terminé. Et pour les femmes, encore davantage.
Perla Servan-Schreiber, vous dites que vieillir vous procure du bonheur. Alors j'aimerais vous entendre.
Alors vieillir me procure de la joie, je dirais, hein, plus que du bonheur. La différence entre les deux, c'est que la joie est une sensation, hein, c'est une sensation, c'est une énergie qui est produite par mon propre mental et mon propre corps, vous voyez, et que le bonheur est forcément dans la relation avec les autres.
D'accord.
Hein, voilà. Donc, je suis, pour ma part, en tout cas, davantage portée à parler de la joie, et vieillir me met en joie. Ça, c'est vrai. Je le reconnais. C'est quelque chose qui a à voir probablement avec un tempérament, parce que là, quand on vieillit, alors là, c'est quand même assez extraordinaire, mais quand on vieillit, c'est le tempérament qui fait la différence entre
les gens. C'est là qu'il se révèle vraiment, je pense.
Et là qu'il se révèle vraiment, et c'est là qu'il pèse, qu'il plombe quelqu'un, ou au contraire, qu'il lui permet de continuer à faire des choses et à rester en activité, et avec des projets. Et moi, j'estime que ce qui fait le plus du bien quand on vieillit, c'est de rester entouré et en contact avec des jeunes.
Justement, j'allais...
Justement, je suis amoureuse de ma vieillesse, à moi. Je suis amoureuse de la jeunesse des autres.
Justement, j'allais vous demander quels conseils vous donneriez pour bien vieillir. Mais vous avez déjà évoqué de se raccorder, d'être vraiment se raccorder à soi-même et de ce tempérament qui fait qu'on peut être plombé comme on peut s'élever. Quel autre conseil donneriez-vous à ceux qui nous écoutent ?
Ça, la fréquentation des jeunes et s'entourer de jeunes. Mais alors là, on touche à un troisième point et que vous avez d'ailleurs déjà évoqué tout à l'heure, c'est être au mieux de soi. Et que se négliger, que ce soit à partir de 40 ou 45 ou 50 ou 60 ou 70, c'est déjà déposer les armes. Or, soyons clairs, plus on vieillit, et plus on a besoin de s'occuper de soi. Ça, c'est certain. Et ça,
Mais ça n'est,
c'est
ça...
du travail, bien sûr. C'est du travail, c'est de l'attention à soi. Et c'est quelque chose que l'on se doit. C'est une politesse que l'on doit à soi-même et aux autres.
Et c'est, ça n'est surtout pas une raison pour déposer des armes, comme vous dites, Perla Servan-Scherberg. Vous restez en ligne avec nous. Dans quelques instants, nous allons continuer à parler ensemble avec Marie-France. Elle fait plein d'activités depuis sa retraite et prend enfin du temps pour elle.
Et le témoignage de Laurence au 39-21. J'ai divorcé à l'âge de 50 ans. J'ai cru que ma vie de femme allait s'arrêter à l'âge que j'avais. Et puis 4 ans plus tard, j'ai eu la chance de faire une merveilleuse rencontre. J'ai éprouvé une émotion comme quand j'avais 20 ans. Être désirée, être aimée, se sentir belle. Eh bien, ça vaut toutes les injections de Botox.
Ce qui résonne avec ce que vient de nous dire Perla Servan-Scherberg.
Europe 1. Comment bien vieillir ? Comment faites-vous pour vous bonifier avec le temps ? Vous témoignez sur Europe 1 à 39-21. Vous pouvez aussi nous écrire et nous rejoindre sur le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Et on vous demande cet après-midi, comment bien vieillir ? Avez-vous la sensation que vous vous êtes bonifié avec le temps ? Olivier Delacroix vous écoute au 39-21.
Et nous sommes en ligne avec Marie-France. Bonjour Marie-France, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Oui, bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Marie-France ?
J'ai 68 ans et je vous appelle de Saint-Maur dans le Val-de-Marne.
D'accord. Alors, Marie-France, vous êtes une ancienne professeure d'anglais à la retraite depuis 2015. Est-ce que la retraite, c'était quelque chose qui vous faisait peur ?
Pas du tout, parce que je m'y étais bien préparée. Je pense qu'il faut vraiment ne pas arriver la veille du jour où on s'arrête et se dire qu'est-ce que je vais faire, il faut préparer.
D'accord. Vous, vous l'aviez bien préparée, visiblement.
J'avais bien préparé, j'avais à diète parce que j'avais plein d'activités à faire et que je ne pouvais pas faire quand j'étais en activité.
Qu'est-ce que vous faites de vos journées alors maintenant ? Dites-moi.
Alors, je donne des cours d'anglais parce que j'étais prof d'anglais à des bénévolements, à des adultes. L'après-midi, je fais du modelage. Je fais également de la couture. Un groupe d'écriture où on se réunit une fois par mois. Et puis, de la gymnastique dans le cadre de bien vieillir. Et avant, j'allais aux ateliers de mémoire. Mais maintenant, du fait que j'ai anglais, je peux pas être partout.
Alors, notre sujet d'aujourd'hui, c'est de bien vieillir. Vieillir, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ?
Eh bien, vieillir, c'est prendre une journée après l'autre et puis espérer qu'on va rester en bonne forme.
Mais est-ce que, justement, cette impression d'avoir enfin du temps pour vous, c'est quelque chose qui vous reconnecte à vous-même, le fait de pouvoir faire tout ce que vous voulez, finalement, c'est un des paramètres importants pour se sentir bien et avoir la pêche ?
Oui, c'est important, mais aussi un autre paramètre, il faut aussi beaucoup rencontrer beaucoup de gens. Moi, je fais du caritatif aussi, donc je rencontre pas mal de gens dans cette optique. Ça peut être préparer un goûter pour des personnes âgées. Enfin, dans le temps, j'allais à la maison de retraite. Là, je peux plus y aller parce que ma mère est décédée. Donc, c'est un peu difficile pour moi de retourner dans ce lieu.
Oui.
Mais autrement, faire des activités avec tout un tas de gens. Et justement, on voit des gens qui ont 90, 95 ans et qui sont pas en bon état. Et donc, c'est pour ça qu'on a envie de faire plein de choses pour les aider à penser à autre chose. Et puis aussi à nous préparer à vivre peut-être centenaire, mais centenaire en bon état.
Alors vous êtes un peu hyperactive, hein. C'est un moyen de se sentir en forme ?
Oui, je pense. Mmh. Mais il y a certains matins, quand je me réveille, je me dis « Ah, ouf, aujourd'hui, je n'ai rien. »
Ah, ça vous arrive encore, ça ?
Oui, il y a un facteur très important aussi, c'est de voir, moi je n'ai pas d'enfant, mais mes petits-neveux, mes neveux, ma famille, dès qu'il y a des vacances, on part en vacances ensemble, à droite ou à gauche.
Mm-hmm. Est-ce qu'il vous arrive de penser à votre vie d'avant, quand vous aviez, quand vous deviez faire des heures chaque jour, que vous étiez prof et que vous n'aviez pas tout votre temps pour vous ?
C'est-à-dire qu'en tant que prof, on a la chance de n'aller travailler entre guillemets que 18 heures par semaine.
Ouais.
Donc, on a quand même un peu de temps pour arriver. J'ai toujours, moi, été à l'association où je vais pour faire des activités. Dans la mesure où j'avais un emploi du temps, j'arrivais toujours à me garder un après-midi. Même quand j'ai été très occupée, j'ai toujours eu un après-midi pour moi. Pour moi, parce que je pense que c'est important. Oui, allô ?
Oui, je vous entends.
Je pense que si on est bien soi-même, on peut être bien avec les autres. Mmh. Si on n'est pas bien avec les autres, on ne peut pas vieillir sereinement.
Je me tourne vers vous, Perla Servan-Schreiber. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Hein. Aller vers les autres, continuer à partager, voire même avec des plus jeunes. Voir ce que l'on a accompli, nos échecs et nos réussites. Est-ce que c'est une bonne idée de méditer sur cela quand on vieillit ?
On le fait assez spontanément, non pas du tout que ce soit une obsession, mais justement, ce qui libère avec l'âge, c'est que nous n'avons plus peur, en tout cas je ne généralise pas,
oui.
Je n'ai plus du tout peur de l'échec,
mmh.
du tout. Et j'ai évidemment, à cet égard, je suis très privilégiée, puisque Marie-France est très active, c'est tout à fait extraordinaire, hein, tout ce qu'elle fait. Et moi, j'ai la chance d'écrire. Donc,
oui.
C'est effectivement un vrai travail, hein, mais en même temps, c'est quelque chose qui est assez solitaire, l'écriture.
Mmh.
Hein.
Oui, mais j'ai envie de vous dire qu'entre la couture, les activités, chacun fait ce qui lui plaît. En fait, l'écriture
oui,
étant
oui.
votre choix, c'est vraiment de faire quelque chose.
C'est de faire quelque chose qu'on aime, hein, c'est de faire quelque chose qui vous fait du bien
oui.
aussi. Hein.
Mmh.
Alors, le contact avec les autres, s'occuper des autres. Moi, personnellement, une des choses qui me motive le plus pour rester en forme le plus possible, et même si je n'ai pas été épargnée par la maladie comme un certain nombre de personnes.
Oui.
Mais il
ne
faut pas confondre la vieillesse et la maladie.
Mm-hmm.
C'est ça qui est très important aussi. Hein.
Mm-hmm.
Dès l'instant où la maladie intervient, ça change tout,
mm-hmm.
évidemment. Évidemment.
Et ne pas confondre, justement. Vous avez raison. Merci beaucoup, Marie-France, pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Perla Servan-Schreiber, vous restez en ligne avec nous. Nous allons continuer à parler de comment bien vieillir et accueillir Michel. Elle est aidante de son mari handicapé, mais cela ne l'empêche pas du tout de prendre soin d'elle.
Et le témoignage de Pierre au 39-21 jeune. Quand j'imaginais des personnes âgées, je voyais des personnes fatiguées, qui marchent lentement, qui radotent, qui râlent. Je vais avoir 80 ans, je suis un grand-père hyperactif et le mot vieillesse n'existe pas dans mon langage.
Europe 1.
Les rides qui se dessinent sur votre visage, vous les ignorez copieusement. Vieillir, c'est dans la tête. Alors comment bien vieillir ? On a envie de vous entendre également sur Europe 1. Vous nous appelez 39-21. Vous composez le 39-21 pour venir échanger avec Olivier Delacroix. Y a-t-il un art de bien vieillir qui se cultive tous les jours ? Est-ce que c'est votre cas ? Vous nous écrivez également via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Et nous accueillons maintenant Michel sur l'antenne d'Europe 1. Europe 1. Bonjour Michel, soyez la bienvenue.
Bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors, j'ai 64 ans et je vous appelle depuis Saint-Maur-des-Fossés.
D'accord. Alors, Michel, votre mari a eu un accident au moment où vous avez pris votre retraite. Vous êtes devenue à ce moment-là son aidante. Pour vous, bien vieillir, c'est important afin de pouvoir prendre soin de lui, de votre mari. Que faites-vous au quotidien pour bien vieillir, justement ?
Pour bien vieillir, c'est donc il est vrai que je m'occupe de mon mari qui c'est une activité qui est assez prenante au quotidien. Pour autant, je me ménage des périodes pour moi, pour un bon équilibre. Alors, je travaille à la fois sur mon activité physique, à la fois sur mon alimentation, et j'ai également une activité de bénévole à l'extérieur qui me permet de me constituer également un réseau social. Et cette activité bénévole, je suis coach en recherche d'emploi, pour moi est une bouffée d'oxygène et au contraire me donne plus de vitalité pour lorsque je suis aidante pour m'occuper pleinement de mon mari.
Mmh. Alimentation donc, sport et puis partage, attention envers les autres sont votre recette pour bien vieillir. Avant cet accident, vous aviez comme projet de devenir consultante pendant votre retraite. Cela n'a pas été possible, mais vous êtes tout de même devenu coach auprès de ces demandeurs d'emploi. C'était important pour vous de rester active ?
Oui, c'était très important. Comme je l'ai dit, c'est pour bien vieillir, me semble-t-il, il faut conserver un réseau social, s'ouvrir aux autres. Et c'est vraiment cette activité de coach me permet justement de rester vigilante sur ce qui se passe autour de moi et d'apporter une aide également à d'autres personnes. Et ça, je crois que c'est vraiment important et ça, c'est gage d'une bonne santé mentale et d'une bonne santé même physique puisque on arrive à s'ouvrir à d'autres personnes.
Mmh. C'est finalement aussi ne pas rester seul parce que je suppose qu'autour de vous, vous voyez pas mal de personnes et notamment de femmes qui sont seules et qui ne s'ouvrent pas aux autres. C'est important.
Exactement.
Ça.
Ouais. Oui, oui, exactement. C'est assez important. Justement, bien vieillir, c'est ne pas rester seul. Mmh. Et quand on est comme ça, aidante d'une personne handicapée, on a une journée qui est très occupée, des activités qui sont assez denses et le fait de pouvoir sortir à l'extérieur, justement, nous ouvre et nous permet de rester vigilante, comme je l'ai dit, sur ce qui se passe à l'extérieur.
Michel, je sais que vous faites aussi d'autres activités, en tout cas l'hypnose, la sophrologie, vous apporte quoi aujourd'hui ?
Ça m'apporte un bien-être. C'est un très bon relais entre l'activité des dentes et le fait de bien me sentir, de me sentir bien dans ma peau, dans psychologiquement. Et ça, ce sont des choses que l'on ne fait pas lorsqu'on est en activité professionnelle.
Mais on n'a pas le temps.
On n'a pas le temps. Mmh. Et qui, lorsqu'on est retraité, sont partie intégrante de justement le bien-être que l'on doit ressentir pour bien vieillir.
Mmh. La sophrologie, elle vous reconnecte à vous-même quelque part.
Voilà, la sophrologie, elle me permet de me poser, de réfléchir à des choses beaucoup plus futiles, de prendre à un moment donné conscience de mon corps et de mon mental.
Mmh. Alors, je me tourne vers vous, Perla Servan-Schreiber. Le maintien d'une activité professionnelle, sinon intellectuelle, c'est important pour bien vieillir ?
Pour moi, c'est fondamental, mais c'est au moins aussi important, comme vient de le dire la personne qui témoigne, Michel, oui. Et c'est admirable, d'ailleurs, tout ce qu'elle raconte, absolument admirable. C'est également très important de s'occuper de soi et de s'occuper des autres.
Mmh.
Hein. Ça, vraiment, et évidemment que l'activité fait partie de s'occuper de soi, mais s'occuper de soi esthétiquement, corporellement, sur le plan alimentaire, c'est-à-dire veiller sur soi.
Mmh.
Hein. Ça, c'est quelque chose qui me paraît au moins aussi important que de veiller sur les autres. Et c'est pour ça qu'on a besoin, quand on vieillit, d'être en forme, c'est parce que autour de soi, et surtout moi qui ai 75 ans, il y a quand même des gens qui vont moins bien, qui vont moins bien que moi, qui ont moins cette chance, que je peux aider. Et puis, il y a aussi, bien sûr, beaucoup de gens qui meurent. Hein. Mmh. Il ne faut quand même pas oublier ça quand on finit par vieillir. Hein.
Bien sûr, bien sûr.
Et il y a ça, et ça, c'est effectivement quelque chose qui est assez difficile, car quoi qu'on dise, c'est que la vieillesse est totalement connectée à la mort, immédiatement, inconsciemment ou consciemment dans l'esprit des gens, mmh. à n'importe quel âge.
D'où l'importance, Michel, de se reconnecter avec soi-même. J'insiste là-dessus parce que j'ai l'impression que lorsque vous m'avez parlé de la sophrologie, de l'hypnose, j'ai comme eu l'impression que vous me disiez avant, je n'ai pas eu le temps de faire ça et aujourd'hui, j'ai le temps et je me reconnecte avec moi et je découvre des choses nouvelles.
Oui, c'était exactement ça. Avant, j'avais pas le temps et j'avais pas l'idée surtout. Et aujourd'hui, que j'entame une nouvelle vie, puisque je suis retraitée depuis quand même peu de temps, j'entame une nouvelle vie et une de mes principales décisions, ça a été de me tourner vers mon mari, de me tourner vers les autres, mais également de m'occuper de moi, mais de m'occuper de moi de façon presque égoïste, j'ai envie de dire.
De vous accorder enfin du temps pour vous.
De m'accorder du temps, voilà, exactement.
Merci beaucoup Michel pour votre appel et votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Pour conclure cette émission, dans quelques instants, nous allons accueillir Alain. Il n'a jamais fait autant de choses que depuis qu'il est à la retraite.
Europe 1. Comment rester jeune dans sa tête et bien vieillir ? On vous écoute au 39-21. Sans avoir le désir de retrouver nos 20 ans, comment bien vieillir, être dans la meilleure forme possible quand on est senior ? Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et pour conclure cette émission, nous avons avec nous Alain. Bonjour Alain, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Alain ?
Alors, j'ai 67 ans, donc je vous appelle du Calvados, hein, du côté de Falaise.
D'accord.
La ville de Falaise.
D'accord, ça c'est la Basse-Normandie, hein, Falaise.
La Basse-Normandie. Ah, il n'y a plus de Basse-Normandie.
Ah bon ?
Il y a la Normandie.
Ah d'accord, vous voyez, moi qui suis d'Evreux, je ne savais même pas qu'il n'y avait plus de Basse et de Normandie.
Mais voilà. Ça y est, on est réunis. Nous sommes réunis, enfin.
Nous sommes frères.
voilà, on est frères.
Vous êtes à la retraite, Alain, depuis l'âge de 59 ans. La retraite, c'est quelque chose que vous appréhendiez ?
Du tout. C'est quelque chose que j'avais bel et bien préparé dans ma tête.
D'accord. Vous faisiez quoi avant ?
Alors, j'étais dans la maintenance thermique. Je m'occupais de chaufferies collectives industrielles. Je faisais de la chaleur.
D'accord. Voilà. Je crois savoir que vous vous étiez donné 3 mois pour ne rien faire, n'avoir aucune obligation, mais vous êtes très rapidement ennuyé.
Non, non, je me suis jamais ennuyé. Non, c'est pas ça. Je m'étais donné un délai de 3 mois pour, reprendre mes esprits, quoi, quelque part. Et puis, au bout de 2 mois, ça allait tellement bien que j'ai dit, là, maintenant, faut que je bouge, quoi.
D'accord.
Et de toute façon, j'ai la bougeotte.
D'accord.
Mais je ne suis pas ennuyé, du tout.
D'accord, vous vous étiez donné 3 mois pour vous reconnecter un peu à cette nouvelle liberté et puis bien prévoir ce nouveau temps libre, en fait.
Voilà. Vous savez, quand je suis parti en retraite, mon patron m'a fait les honneurs d'un beau discours. Mmh. J'avais moi-même préparé quelque chose parce que lui s'inquiétait de me voir partir et que je n'ai plus rien à faire. Donc, dans mon discours, particulièrement, je lui disais, il me disait, qu'est-ce que vous allez faire ? Et je lui disais, mais je vais tout défaire, et ensuite, je vais tout refaire. Mm-hmm. Et je n'ai toujours pas tout refait, voyez-vous, j'ai toujours pas fini de... Voilà,
bah parce simplement. Parce qu'il vous en reste sûrement un paquet à faire, non ?
Ben, il m'en reste, j'espère, oui. J'espère que la vie va être beaucoup plus longue que ça, oui, c'est sûr, il y a plein de choses à faire.
Vous avez acheté un camping-car, ça c'est une idée qui me plaît beaucoup, ça. Vous avez l'impression d'avoir enfin le temps de voir du pays, et le camping-car, il n'y a rien de mieux, parce qu'on est libre, on s'arrête où on veut, on va où on veut.
Voilà, exactement. Et puis, bon, depuis donc les 8 ans, 6 ans maintenant, 4 ans qu'on a le camping-car. On part les week-ends et puis les vacances. Et puis là, il se tombe que cette année, 2019, madame va être en retraite.
D'accord.
Le 1er mars. Alors donc, on va être parti largement plus souvent. Mm-hmm. On va profiter du camping-car.
Vous êtes très actif, hein, autrement. Vous faites quoi d'autre que le camping-car ?
Alors, je fais de la musique.
Ouais.
Juste avant la retraite, j'ai acheté un accordéon diatonique. Je prends des cours. Mm-hmm. Donc, je fais de la musique, c'est mon plaisir. Je fais du vélo, parce qu'il faut garder la forme. Et puis, je vais également à l'université Interage.
Ouais.
Voilà.
C'est quoi cette université Interage ?
Alors c'est sur Falaise, c'est dans le Calvados, donc c'est organisé par l'université pour les retraités et puis même les actifs s'ils veulent. Et on y fait des activités telles que cette année je fais de la chorale, je fais de la sophrologie, mm-hmm. du pilates, on fait de la randonnée, il y a tout un tas d'activités, de l'anglais, de l'italien, allemand. Enfin, moi je participe pas à tout, je veux pas me trouver ouais. absolument débordé
ouais.
mais, voilà, je gère.
Finalement, vieillir, c'est avoir enfin le temps de faire tout, ce que l'on n'a pas eu le temps de faire tout au long de sa vie.
C'est vrai, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui... La retraite, c'est l'ennui. Il y a des gens qui ne conçoivent pas le fait d'arrêter de travailler, parce que c'est leur plaisir, il faut les comprendre.
Ouais.
Moi, ça a été mon plaisir, ça a été d'arrêter de travailler et puis de m'occuper de moi, de ma famille, de moi et tout ça. Ouais.
C'est quelque chose qui vous rend heureux, on le sent, hein, d'avoir votre temps aujourd'hui, de pouvoir en faire ce que vous voulez.
De pouvoir gérer mon temps, parce que c'est vrai que lorsqu'on travaille, on va au travail par obligation, pour vivre, faut se nourrir. Maintenant, la retraite, elle tombe, si petite soit-elle, entre guillemets, mais bon, c'est quand même du bonheur, faut savoir apprécier.
Il y a la liberté qui va avec, donc c'est toujours, c'est inestimable. Est-ce que bien vieillir, c'est aussi s'entourer de personnes qui ont un peu la même philosophie que vous, qui sont aussi positives que vous?
Oui, j'ai la chance de te... comme on dit, bien mariés.
Oui.
Et on positive tous les deux. Et effectivement, oui, cette année, ça va être plusieurs voyages, des voyages en camping-car, et puis une bonne entente. La famille aussi, ça a son importance, oui, effectivement.
Alors, je me tourne vers vous, Perla Servan-Schreiber. Alain, Michel, Marie-France, on a entendu ces trois témoignages et trois personnes qui sont très actives, hein, finalement, qui profitent du temps, qui ont plein d'activités. Comment déculpabiliser ceux qui le sont moins et qui nous écoutent ?
Déculpabiliser. Alors, si c'est un choix de leur part, hein, on peut aussi tout à fait respecter le fait qu'on ait envie de se poser
oui.
et puis, je ne sais pas moi, de voir simplement le temps s'écouler. Mm-hmm. Hein. Pourquoi pas
si ça peut être un choix.
De pouvoir être dans la contemplation, pourquoi pas
oui.
hein. Ça, c'est formidable aussi.
Oui.
Il n'y a pas lieu du tout de culpabiliser ces gens-là.
Si on est dans la contemplation et que vraiment la contemplation est quelque chose qui remplit. Or, ma question s'orientait plus sur déculpabiliser ceux qui ne sont pas très actifs parce qu'ils n'ont pas trop d'imagination, vous voyez.
C'est ça le problème. Si c'est ça, il me paraîtrait très judicieux. Il y a quand même des maisons, il y a des clubs, il y a des... Vous voyez et ça, vraiment, il y en a un petit peu partout. Et où, précisément, les autres peuvent leur suggérer des choses à faire.
Ouais, d'accord.
Il y a tout ce qui est de l'ordre du bénévolat, de l'association, dans les associations. Il y en a des quantités incroyables, un travail magnifique, vous voyez.
Et on peut
dans
toujours,
des domaines très divers.
Et on peut toujours se rendre utile. Merci pour ces derniers conseils, Perla Servan-Schreiber. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à Alain de nous avoir fait partager de son histoire. Merci aussi à Monique, Marie-France et à Michel de nous avoir appelés. Pour bien vieillir, il faut s'accepter, aborder sereinement certains tournants comme la retraite par exemple, car on en fait ce que l'on veut. On peut continuer à travailler, à avoir mille activités. C'est aussi le moment où l'on peut enfin prendre le temps pour soi, se libérer des contraintes. On l'a vu, c'est important de ne pas s'isoler, de continuer à prendre soin de soi. Et de nombreuses associations peuvent vous y aider, Ombline.
Oui, et vous pouvez bien sûr continuer d'échanger sur notre groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1, sur Instagram également, Olivier Delacroix officiel. Ça, ce sont pour les réseaux sociaux. Et puis la libre antenne d'Europe 1 vous attend, c'est Sabine Marin, ce soir à partir de 22h30.
Europe 1.
Lundi, nous parlerons ensemble de la zoothérapie. Les animaux peuvent-ils nous aider à guérir? Et si oui, comment? Si vous avez fait de la zoothérapie pour guérir une maladie physique ou une maladie psychique, si vous êtes adepte de la ronron-thérapie pour vous détendre, vous sentir mieux, si vous avez fait appel à la zoothérapie pour votre enfant, eh bien appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. Merci à Katia Maxime et Angèle Châtelier, assistée d'Armel Tiberge pour l'éditorial, et à Boris Paczynski pour son excellente réalisation cette semaine. J'ai été ravi de passer cette heure avec vous toute la semaine et à vos côtés, ma chère Ombline.
Merci.